Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Lascaux 4, la nouvelle réplique de la célèbre grotte préhistorique, ouvrira ses portes jeudi prochain, dès ce matin. Et en avant-première, Monique Younès vous emmène à Lascaux pour une visite exceptionnelle. À moins de 2 semaines de Noël, nous vous proposons une nouvelle sélection de beaux livres à offrir en compagnie de Bernard Lehu, au programme Bob Dylan, l'histoire de la politesse et le savoir sous toutes ses formes. Charlotte Arrigoni nous livrera les express de Laissez-vous tenter. Enfin, au menu de votre plateau télévisé, Isabelle Morelli-Bosque vous propose la soirée anniversaire des 30 ans de Paris Première et un inédit de Cauchemar en cuisine sur M6.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous commençons avec vous, Monique Younès. Puisque puisque vous revenez de Dordogne, vous avez visité le Centre international d'art pariétal où se trouve la nouvelle réplique de la grotte de Lascaux qui ouvre ses portes au public jeudi 15 décembre. Mm-hmm. Il paraît que l'illusion est maintenant parfaite.
Et parfaite est aussi la mise en condition avant d'entrer dans cette reconstitution. Alors, une fois votre billet payé, 16 euros pour les adultes et 10,40 euros pour les enfants, vous allez grimper sur le toit de ce long bâtiment de béton brut et de verre pour admirer le paysage environnant. Devant vous, la vallée de la Vézère avec ses 15 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et à l'arrière, une colline que l'on touche presque. C'est la colline de Lascaux, m'a dit le directeur du site, Andry Barbet.
Vous les sentez, ces odeurs-là. La grotte originale est à 150 mètres au-dessus de la colline. Là, donc on est très proche. C'est quand même assez magique de se dire qu'ils étaient par là. Ils couraient sur la colline, ces petits hommes de Cro-Magnon.
Et donc après avoir vu, senti le paysage d'aujourd'hui, vous allez remonter le temps, retourner 20 000 ans en arrière grâce à un film animé qui veut reconstituer les paysages glaciaires dans lesquels évoluaient les hommes de Cro-Magnon. Et ce qui frappe le muséographe Nicolas Saint-Cyr...
Extraordinaire, les animaux. Ces gens étaient entourés d'animaux, comme on ne voit plus aujourd'hui. Et tout ça, c'était le cœur de leur société. Et c'est ça qu'on veut faire comprendre avant d'entrer dans la grotte. Voilà, si vous étiez à l'époque, vous viviez entouré d'animaux. Votre vie dépendait de ces animaux.
Et ce sont ces mêmes animaux que les hommes préhistoriques ont gravés sur les parois de la grotte de Lascaux et que le nouveau facsimilé reconstitue à l'identique. Alors une fois la porte franchie, vous sentirez l'humidité de l'air, il fait à peine 13 degrés, les sons sont assourdis, la lumière vacillante, comme si la grotte était éclairée par des lampes à graisse, m'a fait remarquer le préhistorien Jean-Clotte.
Par rapport à la grotte originale, c'est pareil. Hein. Tiens, je vais vous montrer un petit détail. Là, c'est une patte d'ours. Si je ne vous le dis pas, l'ours, vous ne le verrez jamais. Mais l'ours, vous avez la tête qui est là, vous avez la ligne du dos, vous voyez, vous avez cet ours qui est complet. Donc ça a été fait avec le souci total de la restitution originale. C'est une très très belle réalisation. Enfin, vous le voyez bien, quoi. Je suis certain que ça va avoir un succès fou.
Alors la grande question, Monique, c'est quelle émotion ressent-on dans ce facsimilé ?
Celle que vous ressentez, par exemple, en lisant 20 milieux sous les mers de Jules Verne, c'est une émotion préhistorique. Vous savez, l'entrée est limitée à de petits groupes d'une trentaine de personnes. Au-delà de ça, je vous concède que les émotions seraient plutôt celles du RER un jour de pic de pollution. Mais la cinquantaine d'artistes qui ont peint, gravé, reconstitué la géologie, la texture, le grain, les fissures, la couleur de la paroi de la grotte de Lascaux ont fait un travail remarquable. Les 900 peintures et gravures reconstituées à l'identique émeuvent encore Jean-Claude, qui connaît d'ailleurs la vraie grotte par cœur et qui visitait cette réplique pour la 4e fois.
Ça, c'est la vache noire, alors, une des grandes réalisations de Lascaux. Alors, c'est très complexe, il y a des tas de superpositions. Cette vache a été à la fois peinte et gravée. Regardez comment tous les détails du corps, y compris les sabots, par exemple, ont été représentés. Une très, très longue queue, et on a l'impression qu'il y a deux chevaux là, qui ont l'air de sortir de la vache, vous voyez. Oh, c'est fabuleux, hein. C'est un des plus beaux lieux ornés qu'on connaisse au monde. Hein.
Ah, les grottes ornées. Alors, on dit que c'est très joyeux, Lascaux.
Mais les animaux sont presque tous représentés en action. Les vaches sont sautantes, certains chevaux ont les quatre jambes en l'air, ils volent, à moins qu'ils tombent d'une falaise. Les taureaux se pressent comme pour charger une proie. Et ce qui accentue l'émotion, c'est l'exiguïté du lieu. Elle est toute petite, la grotte de Lascaux. pas plus de 900 mètres carrés, 3000 mètres cubes. On a une relation très intime avec les peintures. Certaines sont à peine quelques centimètres à peine. On les frôle en déambulant. On est tenté de les toucher. Alors j'ai demandé à la conservatrice du site, Muriel Mauriac, s'il n'y a pas de risque de dégradation rapide du facsimilé dû à cette proximité des parois et à l'absence totale de protection.
C'est un choix qui a été fait, mais ce sera aussi le rôle des médiateurs d'éduquer le public qui est tout à fait apte à comprendre que bien qu'on soit dans une copie, il est important de respecter le lieu. Et ce travail de pédagogie servira aussi à ces visiteurs quand ils auront la chance de se rendre dans des vraies grottes, puisque si la grotte originale de Lascaux est fermée à la visite, d'autres sont encore accessibles. Je pense à la grotte de Fontgaume, à la grotte de Rouffignac, où on pourra comme ça faire comprendre la fragilité, la vulnérabilité des parois et l'importance de ne surtout pas y toucher.
Alors les visites se font donc avec des médiateurs, c'est ça ?
Oui, mais dans le facsimilé, vous aurez très peu d'explications. Le temps est à l'immersion, à l'observation. Chacun se fera sa propre histoire, ou sa propre préhistoire si vous préférez. Et une fois sorti du facsimilé, vous arrivez dans ce qu'on appelle l'atelier de Lascaux, et c'est dans cette salle hautement technologique, avec des dizaines et des dizaines d'écrans interactifs, que vous aurez des réponses à toutes vos questions au sujet des figures peintes ou gravées. Et cerise sur le gâteau, vous verrez aussi la zone de la grotte qu'on appelle le puits et qui n'a pas pu être reconstituée dans le facsimilé puisque c'est une zone très très étroite qui se trouve à 7 mètres de profondeur et dans laquelle on accède par une échelle. Et c'est dans le petit puits qu'est gravée la seule figure humaine, un homme en érection qui intrigue toujours Jean-Claude.
C'est un homme qui a une tête d'oiseau et en plus il a une érection.
Il est quand même impressionnant.
Alors, est-ce que l'érection, c'est juste pour dire homme ou est-ce que c'est significatif ? Ça, on ne sait pas. Mais ce type, il tombe à la renverse devant un bison qui le charge. Oui, donc c'est une scène tout à fait particulière. Hein.
Alors, vraiment très impressionnante, et vous avez compris, Lascaux 4, ce n'est pas uniquement le facsimilé de la grotte de Lascaux fermée au public depuis 1963. C'est une débauche de technologie. Ça a coûté quand même 63 millions d'euros. Hein. Il y a des films en 3D qui vous font pénétrer jusque dans les recoins les plus reculés de la grotte. C'est aussi une salle d'exposition pour vous montrer combien l'art pariétal a inspiré quantité d'artistes modernes et contemporains, de Picasso à Jackson Pollock, d'Yves Klein à Pierre Soulages. Vous pourrez découvrir leurs œuvres au Centre d'art pariétal et créer virtuellement votre propre exposition. Si vous avez toujours rêvé d'être commissaire d'exposition, c'est vraiment le moment d'essayer. C'est très ludique.
Et puis, plus personne n'est plus autorisé à visiter la vraie grotte de Lascaux.
Hein. Ah bah, c'est un peu plus rigoureux que la circulation alternée en région parisienne, hein, croyez-moi. Alors, pour éviter les crises microbiologiques, comme celle de 2006, qui a fait apparaître des taches noires dans la grotte de Lascaux, la présence humaine est autorisée à 200 heures par an. Ce qui fait que seuls les scientifiques qui font des recherches et veillent à la bonne conservation de la grotte sont autorisés à y accéder. Mais tous les ans, il y a des demandes par dizaines qui sont faites. Il paraît que Mick Jagger renouvelle sa demande tous les ans. Et dernièrement, François Hollande s'est aussi vu refuser l'accès parce que le taux de CO2 à l'intérieur de la grotte est actuellement très élevé. Le président a donc visité la réplique ce week-end, comme tout le monde, comme vous. Vous allez pouvoir le faire dès le 15 décembre et voir combien l'art sublime notre histoire.
Monique Younes, merci pour cette visite merveilleuse et la curiosité qu'elle suscite. On se retrouve dans quelques instants pour les express de Charlotte Arrigotti.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
À deux semaines de Noël, l'Opéra de Paris a fait un beau cadeau ce week-end à 500 enfants défavorisés ou malades.
Oui, ces enfants sélectionnés par le Secours catholique et la Croix-Rouge ont assisté hier à une représentation du Lac des Cygnes. Depuis 1985, plus de 15 000 enfants ont été invités. Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski est à découvrir jusqu'au 31 décembre à l'Opéra Bastille.
Guillaume Canet devient un acteur ringard dans son nouveau film.
Un film intitulé Rock'n'Roll. Il est attendu dans les salles le 15 février prochain. Dans cette comédie, l'acteur joue son propre rôle, celui d'un acteur reconnu de 43 ans, marié à Marion Cotillard et qui enchaîne les castings. La bande-annonce est sortie ces dernières heures. Extrait.
Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque.
Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc...
Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés.
Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein.
C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Je vais faire un drôle de vénère, tu vois, un peu de physique.
Ça,
Quoi ? Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi.
Ah ouais.
Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut.
Merci, au revoir.
Petit connard.
Rock'n'Roll en salle le 15 février prochain avec au casting aussi Gilles Lelouch, Kev Adams qu'on a entendu, ou encore le couple Johnny et Laetitia Hallyday.
Bob Dylan n'est donc pas allé chercher son prix Nobel de littérature samedi en Suède. La cérémonie a été remplie d'émotions.
Bob Dylan a mandaté Patti Smith pour aller chercher sa récompense. À cette occasion, la chanteuse américaine a interprété un titre de Dylan, A Hard Rain's Gonna Fall, mais pendant sa prestation, visiblement très stressée, elle s'est arrêtée net. I saw the baby. I saw the babe that I'm sorry. Earth salt and I'm sorry. I apologize. Sorry, I'm so nervous. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut recommencer cette partie ? Je suis désolée, je suis très nerveuse. S'est excusée la chanteuse avant de reprendre la chanson.
Voilà, c'est reparti. Alain Delon lui donne des nouvelles de Mireille Darc.
L'acteur, aux côtés de Patrice Lecomte, était l'invité du 20h de France 2 hier soir. Il en a profité pour aborder la santé de son ex-femme. Rappelons que Mireille Darc était hospitalisée depuis le 19 septembre suite à deux hémorragies cérébrales.
Elle est rentrée à son domicile hier. Et elle va beaucoup mieux et elle reparle parce qu'elle ne parlait plus. Et on a vraiment craint le pire. Ça a été difficile, difficile. Elle est restée 3 mois à l'hôpital. Un jour, il y a 15 jours, je peux le dire maintenant, son cœur s'est arrêté. 26 secondes. Il est reparti, Dieu merci. 26 secondes. Et elle est bien maintenant.
Alain Delon sur France 2. Alain Delon qui a aussi profité de l'occasion pour dire que l'un de ses rêves avant de partir serait de tourner avec Sophie Marceau, et ce sous la direction de Patrice Lecomte.
Merci Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter.
Oui, il paraît que c'est Laissez-vous tenter.
J'étais traversé par un doute.
C'est l'émotion d'entendre Alain Delon donner des nouvelles de Mireille Darc.
Tout ce que vous voulez. Et Bernard Leu, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans votre hôte de Noël ce matin, une nouvelle sélection de beaux livres. Thème du jour, la culture plaisir. Et on commence justement par un beau pavé de près de 1000 pages. 100% culture.
Mais oui, c'est la culture sous le signe du chiffre 100. 100 domaines pour chacun d'entre eux. Les 100 meilleurs exemples présentés en quelques lignes et richement illustré. Alors j'aime beaucoup la conception du savoir de ce livre. Pas d'hiérarchie, pas d'exclusion. On y célèbre une culture sans frontières. Mmh. On y trouve aussi bien les 100 romans incontournables ou les 100 plus beaux monuments que les 100 buts de football inoubliables, parfait, les 100 voitures ou motos de légende, les 100 procès célèbres, les grands savants ou encore les grandes catastrophes. Bref, de quoi combler toutes les curiosités.
Et il y en a vraiment pour tous les goûts parce que je vois qu'il y a aussi une rubrique sur les 100 fromages.
Donc, cocorico sur les 134 français, monsieur, plus 1, car le livre nous attribue par erreur un fromage gallois. Nous sommes donc bien toujours le pays du fromage, l'honneur est sauf. Si vous êtes cinéphile, bah allez découvrir les 100 films incontournables dont... I'm singing in the rain. Chantons sous la pluie, qui figure aussi parmi les 100 grandes comédies musicales. Un joli doublé donc pour Chantons sous la pluie. Et alors, à propos de musique encore, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre l'une des 100 chansons indispensables et de saison. Voilà, ça c'était une petite dédicace pour Isabelle, Bonnie Bosque.
C'est Bing Crosby qui est-ce qui chante?
C'est la version bien sûr originale, Bing Crosby. Alors donc, de tout cela, vous allez le trouver dans ce livre, 100% culture, c'est aux éditions Grunt, avec le umlaut, et ça coûte 29,95 €.
La chanson, restons-y avec l'ouvrage Bob Dylan, La Totale.
Une bible, l'histoire des 492 chansons du prix Nobel de littérature, qui ne vont pas aller chercher son prix. C'est raconté avec un luxe inouï de détails. Exemple, I want you. Son chanson enregistrée à Nashville le 10 mars 1966, entre 3 et 7 heures du matin, nous dit le livre, lors de l'ultime séance d'enregistrement du 7e album de Dylan, Blonde on Blonde, sorti 3 mois plus tard. Dylan ne chantera I Want You sur scène que 10 ans après, le 11 mai 1976, à San Antonio, au Texas. De formidables photos d'archives accompagnent bien sûr cette odyssée des chansons de Dylan. Bob Dylan, La Totale de Philippe Margotin et Jean-Michel Guédon, publié aux chaînes, 49,90 €.
Votre troisième choix, Bernard, comblera les amateurs de science et de nature.
Quand la nature inspire la science, oui. C'est son titre. De nombreuses inventions de l'homme sont nées de l'observation des remarquables facultés du règne animal ou végétal. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors les plus extraordinaires de ces inspirations sont ici recensées. On sait que le sonar est emprunté aux dauphins, l'avion aux oiseaux bien sûr, mais saviez-vous que la coquille Saint-Jacques est à l'origine de la tôle ondulée. Dans les années 30, un ingénieur français, Robert Ricollet, a compris le profit que l'homme pouvait tirer de la structure légère et pourtant hyper résistante de la coquille Saint-Jacques. Il y a comme ça près de 70 exemples passionnants. « Quand la nature inspire la science » de Matt Fournier aux éditions Plume de Carotte, et ça coûte 35 euros.
Et on termine, alors là je suis ravi, par le dictionnaire nostalgique de la politesse de Frédéric Rouvillois.
La politesse, c'est une marque de civilisation, donc c'est aussi de la culture, surtout quand ses règles et son histoire sont racontées avec autant d'érudition que dans ce dictionnaire courtois, de A comme addition à Z comme zut. Alors exemple, au mot éternuement, on apprend qu'on a de tout temps formulé des souhaits à celui qui éternue, mais brutalement, à partir du 19e siècle, les bourgeois ont décrété que c'était vulgaire. Oui. Ça n'empêche pas la tradition populaire du « à vos souhaits » de se perpétuer, et elle est ainsi plus fidèle que la bourgeoisie, elle est plus fidèle aux usages de la cour de Versailles, souligne malicieusement Frédéric Rouvillois, l'auteur du dictionnaire nostalgique de la politesse publié chez Flammarion. 25 euros, voilà pour la hôte d'aujourd'hui.
La politesse embellit tout ce qu'elle touche, furetière. Les références de ces quatre livres sont sur RTL.fr. La télévision est à suivre avec Isabelle Morelli-Bosque. Et ce soir, ça se passe sur Paris Première.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
On passe à la télévision avec nos audiences et médiamétrie, évidemment audience du week-end.
Très bien. Koh-Lanta termine la 16e saison en beauté. Quasiment 6 600 000 téléspectateurs ont vu la victoire de Benoît. C'est presque 1 million de plus que la moyenne de saison. C'est 500 000 personnes de mieux que la finale de 2015. C'est aussi deux fois plus d'audience que Deux flics sur les docks, deuxième sur la 2. Samedi, TF1 est de nouveau en tête devant le polar avec Danse avec les stars, devant le polar de la 3 Magellan. 4 600 000 contre 4 300 000. Quant à hier, c'est La Belle et la Bête avec Vincent Cassel qui est en tête sur TF1 encore. Presque 5 millions de téléspectateurs devant Night and Day et les enquêtes de Vera qui sont vraiment au coude à coude. Et puis on signale quand même le succès des Mystères de l'Amour. 1 100 000 téléspectateurs, la suite d'Hélène et les garçons. Yves, ne me regardez pas comme ça.
Je regarde avec curiosité. On va passer à nos programmes du soir. Et on note alors là pour le coup un cauchemar en cuisine inédit sur M6.
Oui, Philippe Etchebest, le chevalier Bayard des restos en difficulté. Et ce soir en Dordogne, il est également le même jour dans Objectif Top Chef pour désigner le meilleur apprenti de France qui intégrera Top Chef. Bref, il est partout et dès qu'il apparaît, faut bien le dire, les gens pleurent ou d'émotion, ou de peur, ou de stress, ou les trois, notamment d'Objectif Top Chef.
Oui, ça ne s'arrête jamais en fait. C'est vrai qu'ils pleurent beaucoup, mais moi aussi. Il y en a qui m'ont beaucoup touché. Je ne suis pas toujours tendre avec eux, parfois difficile. Moi, je sais pourquoi je le fais. Et quand il y a une vraie prise de conscience à la fin, c'est vraiment émouvant.
Est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Ou est-ce que vous en rajoutez? Les caméras obligent.
Les caméras, déjà, je les oublie. Ceux qui pensent que je joue, que j'en fais trop, mais je m'en fous, mais ils n'imaginent même pas comment. Quelque part, j'ai une mission d'aider des gens en difficulté. Je répète, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là. Les autres, ce qu'ils en pensent, je m'en tape. Que ce soit Cauchemar en cuisine ou Objectif Top Chef, c'est un vrai travail, c'est un vrai investissement. Cauchemar en cuisine, j'en fais pas beaucoup dans l'année. 8, 9, pas plus, parce que ça demande une énergie considérable. C'est beaucoup de psychologie où il faut comprendre l'autre. Alors, c'est de la télé peut-être. Oui, mais gueulante, ça fait parler. Je sais, moi, pourquoi je le fais. Et ceux qui ne le comprennent pas, tant pis pour eux. Moi, ce qui est important, c'est ce que ressentent les gens à la fin.
Alors, des articles étaient sortis montrant des résultats contrastés pour Cauchemar en cuisine, avec notamment la faillite des 4 premiers restos secourus. Alors, Philippe Etchebest ?
Je vais expliquer un truc, parce que moi, je l'ai vu, ce décompte à 2 balles. Les 4 premiers, oui, ils sont peut-être fermés, là. Mais il faut savoir que Toulon, le premier que j'ai fait, il a tenu pratiquement 4 ans, alors qu'on lui donnait 3 mois. Il a fermé parce qu'il y a eu une séparation du couple. Mais pour moi, c'est une réussite. D'accord ? Je me rappelle de Kevin à Moissac. Mais c'était un carnage, les gens venaient le voir. De la France entière, ça marchait du feu de Dieu. Sauf que l'objectif, c'était que sa mère refile le restaurant à son fils. Mais comme elle voyait que ça marchait vachement bien, eh bien, elle voulait plus lui donner. Et c'est là où c'est parti en vrille. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je sais les restaurants qui ont vraiment fonctionné. Et ceux, effectivement, où ça a loupé. Aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas écouté. Mais globalement, je suis à plus de 70% de réussite. Quand on fait une enquête, il faut creuser quand même aussi. Il faut faire un vrai travail.
Voilà. La fourchette économique, elle aussi, est bonne, qu'on se le dise. Donc, M6, 20h55, Philippe Etchebest. Moi, je l'adore. J'avoue que c'est ma faiblesse. Voilà.
Et nous avons un anniversaire à fêter, dites-moi.
Oui, quel est le point commun entre Thierry Ardisson, Frédéric Becbédé, Laurent Ruquier, Frédéric Tadi, Pierre Liscure, Éric Nolot, Natacha Polony et tant d'autres? Eh bien, Paris Première. Ils ont tous travaillé, certains y travaillent toujours, sur cette chaîne brillante qui fête ce soir ses 30 ans d'existence. Une chaîne célèbre pour sa liberté de ton et ses émissions insolentes, du Journalist Club à Paris Dernière, en passant par les Gérards de la télévision et Rive Droite, Rive Gauche, où, là aussi, se passait toujours quelque chose, comme ce jour où, suite à une critique exécrable mais drôle de Philippe Tesson, Isabelle Adjani, avait envoyé des médicaments contre les acidités d'estomac.
Les médicaments contre l'acidité gastrique et les problèmes hépatiques sur cette table m'ont été envoyés par Isabelle Adjani. Il y avait aussi une lettre d'Isabelle Adjani. Voilà. Cher Thierry Ardisson, voilà des provisions de remèdes pour soigner du moins modéré les aigreurs et renvois acides de vos hôtes les plus atteints.
Voilà, suit une lettre de 3 pages, c'est évidemment Thierry Ardisson qu'on a entendu. Paris Première célèbre ce 30e anniversaire par une grande soirée en direct où ils vont tous venir, où ils seront tous là ce soir. Ils sont tous impayables, si j'ose dire, puisqu'il faut pourtant payer pour avoir Paris Première, malgré les demandes réitérées de M6, pour que Paris Première passe en gratuite sur la TNT gratuite. Voilà, la suite donc ce soir. Sur Paris Première, j'avoue qu'il y a d'excellents moments, notamment moi, les Gérards de la télévision, j'avoue que ça m'amuse beaucoup.
Il y a des moments comiques, hein, on est bien d'accord. On se retrouve dans quelques instants pour se dire au revoir et accueillir notre camarade Julien Courbet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Merci à toute l'équipe. Notre merci voyage à Lascaux, c'était extraordinaire. Merci. Vous m'emmenez la prochaine fois.
Hein. Mais j'espère, bon, voilà. En avion privé.
C'est parfait. On se retrouve bien entendu demain, dès 9h, pour un nouveau Laissez-vous tenter avec toute l'équipe. Et maintenant, on va accueillir Julien Courbet. Donc, on est vachement en avance.
Qui n'est pas seul.
En famille aujourd'hui.
Et oui, c'est Jacques Pradel qui va nous aider à régler les cas. Ça, c'est la première de ses missions. Puis la deuxième, c'est de nous parler de son nouveau livre, hein, Les grandes affaires criminelles pour les nuls, où l'on retrouve bon nombre de meurtriers connus, comme l'affaire Calvi. Hein, qui étouffait ses victimes avec son slip. Hein. Et il pouvait en étouffer jusqu'à 4 en même temps. Incroyable. L'affaire Maurice Libos, qu'on en parlera aussi, Jacques, qui a attaché ses victimes sur une chaise et leur récitait des audiences jusqu'à ce qu'elles décèdent. Enfin bref, il y a des cas incroyables dans ce livre et nous allons en parler. Je vous souhaite une belle semaine,
et
monsieur Calvi.
Et nous vous remercions d'avoir. Vous êtes saisi de ce dossier de première importance.
Vous écoutez RTL.